je revois ce monsieur dans sa manger à l'ombre en train d'écrire avec son porte-plume, son encrier. C'est un moment d'émotion, oui, bien sûr. Il me commentait ce qu'il écrivait. Voilà. C'était il y a plus de 60 ans, hélas.
Vous étiez là quand il écrivait ?
Oui, oui, je le voyais faire des recherches. Je pense que ses cahiers, donc je n'ai pas vu, mais quand il a écrit la monographie de Puyaroc, oui, je le voyais prendre son joli chapeau, melon, mettre la cravate et descendre aux archives à Montauban en autobus. Il y avait un autobus qui faisait la ligne Figeac-Toulouse, et donc il partait le matin et revenait le soir avec tout ce qu'il avait découvert, quoi.
Les capsules du patrimoine, c'est l'émission du service inventaire du patrimoine du pays Mythique-Quercy pour savoir d'où on vient et où on va. Aujourd'hui, avec Léa Gérardin-Macario et Sandrine Rueffly, nous partons à la rencontre de l'instituteur Jean-Sébastien Bourgeol, né en 1875 à Léojac et qui s'est éteint presque centenaire à Caussade en 1971. Grâce à ses mémoires, rédigées dans des carnets d'écoliers, il nous fait découvrir toute l'histoire du début du XXe siècle à hauteur d'homme. C'est une sorte de Marcel Pagnol local, plus discret, sans ambition littéraire, mais seulement celle du témoignage personnel. Avec l'aide de l'Association des Amis des Archives Départementales de Tarn-et-Garonne et de M. Ibarz, dépositaire des carnets, le service de l'inventaire du patrimoine souhaite faire sortir de l'ombre ses écrits.
Ces cahiers, c'est sa vie, non ?
Ces cahiers, oui, c'est sa vie, c'est son histoire, quoi. Bon, il faut savoir qu'il était né en 1875, qu'il rentre en 1890 à l'école normale de Montauban qui était là, c'était les archives. Et lorsqu'il sort de l'école normale, on n'avait pas de poste, donc il est nommé ou il postule pour le lycée français de Valence, en Espagne. À l'époque, il fallait oser, hein. Et donc, il a vécu longtemps, quelques années à Valence, et c'est là qu'il s'est familiarisé avec la langue espagnole. Et alors, quand il y a eu la guerre civile, quoi, en 1939-1940, il a recueilli beaucoup d'Espagnols, il les a beaucoup aidés, aidés dans les démarches administratives qu'il fallait faire. Pendant de longues années, il a fait ça. Voilà. Et donc, il avait gardé une certaine estime pour sympathie pour le peuple espagnol. Il aimait s'entretenir avec les gens et parler en espagnol. C'était, voilà, le souvenir que j'ai. Et pour aux yeux de cette communauté-là, c'était un grand monsieur, quoi.
Il a fait toute une partie de sa carrière d'instituteur à Puy-la-Roc et il a pris sa retraite à Puy-la-Roc. Donc il a fini sa vie, en gros, à Puy-la-Roc.
Oui, il avait commencé, après son retour d'Espagne, il a exercé à Espinas. Et il a vécu les temps difficiles entre le préfet, le curé, et c'était vraiment une époque très dure dont il m'a parlé souvent, quoi.
Et à Verfeil-sur-Seille aussi.
À Verfeil-sur-Seille,
oui,
j'avais...
Alors là, on est aux archives, dans l'association Les Amis des Archives de Tarn-et-Garonne, puisque la personne dont on parle a écrit 3 cahiers où il raconte tout ce qu'on vient de dire et bien plus encore.
L'association Les Amis des Archives départementales de Tarn-et-Garonne est chargée de transcrire le contenu de ces cahiers dans le but, peut-être, d'une publication. Nous verrons plus tard. Hein. Et donc, nous sommes attelés, ou sous la forme de 2 groupes, un qui a déjà commencé l'année dernière, et un autre, cette année, nous étions 2 binômes, donc nous avons à peu près dépouillé la moitié de ces 3 cahiers, pour l'instant.
Nous avons commencé par le premier cahier, qui raconte donc tout le début de sa vie, sa naissance, ses études à Montauban, et ensuite son départ pour l'Espagne. Et le carnet 2 commence avec son exercice à Puy-la-Roc. Voilà.
Quand on dit carnet, c'est vraiment des carnets. C'est des carnets Le Calligraphe, c'est des carnets d'écolier, écrits avec une très très belle plume, avec des petits bouts de papier glissés un peu partout, des astérisques et des notes de bas de page. C'est un sacré boulot, non, d'essayer de retranscrire tout ça.
La lecture est assez facile. Après, on est des fois dérangé parce qu'il manque de ponctuation, un petit peu. Les dates aussi, on a du mal à se repérer dans le temps, à se situer. On se dit, bon, alors, c'est quelle année Bon, voilà, après, Fabienne me dicte, j'essaye de bien retranscrire. Et c'est vrai que les pages sont écrites de la première ligne du haut jusqu'en bas. Il ne perd pas de place. C'est vrai que voilà, c'est intéressant de connaître toute sa vie, ses petites anecdotes.
On voit qu'il est revenu plusieurs fois, il y a en différentes couleurs, qu'il y a eu des rajouts.
C'est lui qui a fait les annotations, je ne suis pas sûre.
C'est le même écriture.
A priori, ce serait lui, parce que personne d'autre aurait touché au cahier.
C'est la même écriture.
Mais Léa avait commencé à transcrire, je pense.
J'avais commencé un petit peu, juste pour voir le temps que ça prenait, le volume que ça représentait, et ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça prend beaucoup de temps à transcrire, en effet. Et c'est pour ça qu'on avait ensuite discuté avec les archives départementales pour trouver un moyen de faire connaître ce texte qui, nous, à l'inventaire, nous touche beaucoup à plusieurs niveaux. L'aspect voilà, historique, ce qui est raconté dedans, comment il décrit sa vie d'enfant et d'homme au début du XXe siècle. Comme à l'inventaire, on travaillait sur la Belle Époque, donc la fin du 19e, début du 20e siècle, et que lui, il décrit la vie d'un petit garçon à la campagne qui va à l'école juste au début de la Troisième République. C'était vraiment en plein dans nos travaux de recherche aussi sur la construction de ces écoles républicaines, toutes neuves, il en parle. Lui, il est allé dans l'ancienne école, puis dans la nouvelle.
Aller au Jacques, puisqu'il a grandi à Léo Jacques.
Voilà. Et il est aussi un produit de la Troisième République, puisqu'il est enfant de cultivateurs. Et il est devenu instituteur grâce à l'école de la République aussi, à ce moment-là. Et donc c'est vraiment un monsieur tout le monde, on va dire, mais qui raconte l'histoire un peu de la France du début du XXe siècle. Donc c'est ça, nous, qui nous a touché d'un point de vue, on va dire, historique et patrimonial. Et après, nous, on a vraiment apprécié son texte, quoi. L'aspect, la façon dont il décrit les choses, c'est très sensible. Il raconte comment, enfant, il aime aller dans le bois derrière chez lui pour voler les fraises, les fraises qui sont surveillées par le garde champêtre. Comment il emmène les oies glaner après une fois qu'on a coupé le blé. Et voilà, il raconte vraiment plein de choses très sensibles. Comment il aime marcher. Enfin, il raconte comment il part de Léo Jacques pour aller à Montauban, donc faire l'école normale à pied. C'est 7-8 km, je crois, de marche tous les jours, le matin, le soir. Et voilà, et comment il aime parfois s'asseoir à côté d'un arbre pour regarder le paysage. Il y a un côté très sensible quand même dans les textes, ce qui n'est pas juste comme un journal où on dirait aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai vu un tel. Non, il y a vraiment... alors c'est pas non plus de la littérature, mais il y a une dimension autre que juste un journal, quoi. Il y a quelque chose de plus. Enfin, en tout cas, nous, qui nous avait touché dans le texte.
C'est la vie d'un homme, c'est une époque aussi. Alors juste avant, au début du 20e.
Il est né en 1875. Et il écrit ses cahiers en 1940. Donc il a un peu de recul sur sa vie, puisqu'il a une soixantaine d'années à l'époque. Voilà.
Et il a vécu plein de trucs.
Oui, il a vécu toute toute la première partie du XXe siècle, et même au-delà, puisqu'il est décédé, il avait 96 ans.
Oui, hein, c'est 1971, il décède. Ouais. C'est ça.
Pour moi, ma vie était à l'école, dans les livres, dans les bois, dans le rêve. Il y avait derrière notre maison des bois où deux choses m'attiraient surtout. une mare où on portait rouir le chanvre. Un monde d'êtres y vivaient, grenouilles, couleuvres, papillons, libellules. J'y passais des après-midi entières. Et puis un bois de pins. La terre parsemée d'aiguilles semblait une éponge, et là-haut, dans la cime des pins, une musique divine semblait descendre du ciel, tantôt grave, tantôt aiguë, selon la force du vent. Collant mon oreille au fût, je l'écoutais descendre, allant de l'un à l'autre, car le son variait avec la grosseur de l'arbre ou le volume des branches. Ensuite, je me couchais par terre, et les yeux fermés, j'écoutais. Je n'oubliais pas l'utile, je rapportais à la maison un petit sac de cônes de ces pins sylvestres, toujours les bienvenus. D'autres jours heureux étaient ceux où dans les bois et les vignes de Pisport, appartenant à M. Molinier, nous allions cueillir de ces petites fraises des bois dont on sent le parfum avant de les voir. Il fallait user de ruses d'apache, car le garde champêtre n'habitait pas loin de là, et avec sa lunette d'approche, il inspectait l'horizon. Il était d'autant plus dévoué que les riches propriétaires le récompensaient de son zèle. Il faut croire que nous fûmes toujours plus forts que lui et nous mangeâmes de nombreux desserts qui ne nous avaient coûté qu'un peu de peine et une pointe d'émotion.
Peut-être on peut revenir sur comment ces carnets nous sont, enfin vous sont parvenus.
Oui, comme je vous ai expliqué, Monsieur Bourgeol, lorsque mes parents sont venus habiter à Caussade, donc il avait déjà 64 et 25, pratiquement 90 ans, et donc il est venu prendre pension à l'hôpital de, enfin, à la maison de retraite de Caussade. Voilà. Et donc, lorsqu'il est descendu à Caussade, il a amené peu de choses avec lui, mais il a amené la monographie de Puylaroc et ses trois cahiers. J'allais le voir tous les jours. Je faisais ce qui était nécessaire de faire, des démarches administratives, aller retirer d'argent, etc. Et quelques mois avant de décéder, il m'a légué tous ces cahiers-là. Voilà.
C'est une photo de lui ?
Oui.
En Espagne. C'est une photo de M. Bourgeois quand il est à Valence, voilà, avec sa cape, sa moustache, qu'il a gardé toute sa vie.
Voilà. Il est tout jeune, là. Il est tout jeune parce que...
Voilà. On est en 1895.
Mmh. Donc, il a 20 ans, oui.
Parce qu'après, vous n'avez pas d'autres photos de lui. Il n'y a que cette photo de lui à 20 ans.
Non.
Ça. On n'a pas d'autres images de lui plus tard.
Je crois qu'il était assez coupé du village quand même. Hein. Rétrospectivement, il n'entretenait pas trop de relations avec les gens du village. Hein. Mmh.
Bah, peut-être à cause de cette histoire aussi de dénonciation pendant la guerre qui a dû le...
Mais il est quand même revenu finir sa vie là-bas.
Oui, parce qu'il était attaché, je crois. Il était attaché à Puylaroc par sa femme qui était puylarocaine.
Oui, qu'il avait connu.
Qu'il
avait connu à l'hôtel.
On en est là, nous.
Oui, la courtise quand elle est en train de coudre, non ? C'est pas ça ? Elle coud ou elle tricote,
oui,
non ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Il est hébergé en pension dans une auberge. Et la jeune fille a perdu sa maman à 13 ans. Elle aidait le papa qui allait faire les bars beaucoup à Puylaroc. Et donc, elle tenait cette auberge. Et c'était sa première résidence où il devait payer, d'ailleurs. Il avait son petit salaire. Oui. Il nous expliquait qu'il avait tant de francs. Ouais, et ça lui coûtait la pension. Et donc, voilà, au fil du temps, il lui a demandé
la main.
Et elle a mal pris au départ parce que... Elle pensait qu'elle n'était pas... Non, elle n'avait pas accepté parce que ce n'était pas une fille facile et elle avait tenu tête au début. Voilà, on a eu ses premiers amours aussi quand il était à l'école sur Montauban. Une dame avec le chapeau, là. La dame au chapeau. En Espagne aussi, il a eu une conquête qui a mal fini parce qu'apparemment, elle était fiancée avec un Espagnol, donc mal fini. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on rigole bien aussi.
Et l'auberge dont vous parlez à Puylaroc, en fait, c'est intéressant de le lire aussi d'un point de vue historique et surtout architectural, parce qu'il y a une description, il y a toute la description de sa vie au sein de cette auberge, comment il mange, à quel moment, et puis aussi la description architecturale, quelque part, de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait à tel endroit ? Parce qu'il y avait plusieurs fonctions dans cette auberge. C'était une auberge café. Et on a eu l'opportunité de visiter l'auberge qui aujourd'hui est une maison, mais qui conserve encore la devanture peinte. parce que après donc le papa de cette le beau-père de Monsieur Bourgeol, c'était les Cabarocs qui ont
Besombes.
C'était l'hôtel Cabaroc. C'est ça.
Et c'était l'hôtel Cabaroc. Et la devanture peinte est encore lisible à Puylaroc. Et à l'intérieur du coup de la maison, on retrouve les dispositions qu'il nous décrit dans ses cahiers, et même une inscription un peu touchante de salle à manger indiquée sur une des portes qui est encore là. Donc en fait, parce que l'on peut lire, effectivement, on est complètement transporté dans son histoire, mais c'est aussi intéressant pour nous de confronter ses écrits avec une réalité architecturale, en tout cas. Ouais. Et ça, on a pu le faire à plusieurs reprises, puisqu'il nous parle aussi de toute de la vie avec ses parents à Léojac, dans la ferme de Cattier, où il naît, et puis ensuite là où ses parents, qui sont agriculteurs et métayers, travaillent pour une famille à Rastelli, au lieu dit Rastelli. Et là, il y a une description aussi assez précise de cette ferme-là.
C'est une très belle ferme, on voit. Et il raconte aussi comment cette grande famille aménage le devant de la maison d'habitation en faisant un escalier à double
volet,
oui.
Et c'est là aussi que les employés de la maison, parce que j'appelle ça une ferme, mais c'est une ferme cossue, c'est une demeure avec un parc, etc. Et à cet endroit-là, de l'escalier, c'est là que madame la propriétaire payer les employés, et ça, il le décrit. Oui. Il le décrit que c'est au sommet de cette volée d'escalier que chaque semaine, elle payait les employés, dont son père. Voilà.
C'était la demeure d'été de ces gens qui vivaient à Montauban le reste de l'année. L'été, ils allaient prendre l'air frais sous les grands arbres de la maison de Rastelli à Léojac.
Complètement, et le reste de l'année, on vit à Montauban.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est l'estime qu'ils portent pour les patrons de ses parents, en parlant de leur bienveillance. C'est quand même... Alors, est-ce que ce sont des restes de la Révolution française qui font que peut-être la mentalité des patrons avait changé? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est intéressant de voir comment il en parle avec beaucoup de bienveillance.
Le groupe numéro 1 n'a pas l'air d'accord.
Non.
Je vous dis ce qu'il m'avait raconté. Non, non, mais vous pouvez
ne pas... Juste, on n'a pas... dire qu'on ne l'avait pas lu, ça.
Oui, on n'avait pas... On n'a pas souvenir de...
Non, de ça, de l'histoire de...
Oui. De l'escalier, de la volée d'escalier.
Oui.
Il faut dire que quand on lit et qu'on écrit en même temps, on fait attention, il y a l'orthographe, il y a tout ça, donc on n'est pas toujours très attentif.
Il faudrait revenir à la fin, je pense.
Et puis pour la forme, moi je suis désolée, je l'ai sous les yeux, mais il y a certains moments où j'ai vraiment du mal à lire. Il y a quand même des grandes...
C'est ça, en fait, il faut être, pour la partie transcription, vous disiez, il faut être très concentré. On travaille presque mot à mot sans forcément, avoir le sens.
On se dit, mais là, il faut un S, là, il n'en faut pas. Oui.
Hein oui. C'est vrai que la ponctuation est un petit peu... Il a une ponctuation un peu étonnante. Je connais pas bien les règles.
Un peu aléatoire.
Oui, c'est ça.
On est obligé de rectifier parfois.
Souvent, oui. Donc ça gêne un peu la lecture quand on travaille comme ça, vraiment transcrire. Donc c'est vrai que du coup, on a du mal à s'imprégner du texte. Peut-être, c'est vrai que comme nous, on l'a pas mal
lu et relu.
Voilà, on l'a beaucoup lu, beaucoup relu.
C'est ça.
D'un trait.
Voilà. C'est ce qui nous est venu en le lisant. On s'est rendu compte que... Il faut le faire connaître, ce texte, parce que... mais du coup, il y a un gros travail pour le faire connaître. On ne peut pas le faire connaître comme ça, tel quel, parce qu'il faut travailler à la transcription, le rendre intelligible. Il est intelligible. Il le rend lisible pour nous aujourd'hui, quoi.
Le château de Rastelli était une maison de campagne d'un bel aspect. Derrière étaient le verger et le jardin d'agrément. Devant, un espace planté de sycomores, de marronniers, de mimosas. En hiver, une pelouse se couvrait de persneiges et, durant la belle saison, une vingtaine d'orangers, citronniers et lauriers roses étaient alignés devant la façade. D'un côté de la route et de l'autre, les constructions annexes, caves, greniers, granges, étables, écuries. Au lieu des murs nus qu'on aime aujourd'hui, Ils étaient revêtus de roses variées, de bignonnes, de lierre, de clématite, ce qui avait ses inconvénients, mais donnait aussi à la maison un aspect accueillant. Un double escalier montait au premier étage, qui comprenait une dizaine de pièces, avec un grand couloir au milieu. C'est sur le palier de cet escalier que la maîtresse, assistée toujours de sa demoiselle de compagnie, payait le salaire aux ouvriers, à la fin de la semaine ou à la fin du travail. Il montait d'un côté, descendait de l'autre, la casquette à la main, disait « merci » après avoir reçu leur dû et entendu un mot aimable de la dame. J'y suis monté aussi pour recevoir mon salaire des vendanges dans les premières années, 10 sous par jour. Plus tard, ce fut pour rien que je donnais un coup de main. Il faut rendre hommage à ces maîtres de l'ancien temps dont l'amabilité, la politesse feraient l'étonnement de ceux d'aujourd'hui. Il semblait qu'ils eussent des domestiques non pour les servir mais pour les aider. Aussi, les domestiques étaient en réalité dévoués à leur maître. C'est ainsi que la femme de chambre ne quitta pas sa maîtresse ruinée. Quoiqu'elle ne reçût aucun gage, et vécut les dernières années avec elle des subsides en nature que leur remettaient les Bergis, les Guiraud, les Garrison, les Roussenac, les Dagran, minotiers qui avaient acheté la maison de la grande rue Villebourbon.
Il aime bien se promener seul. Il n'a pas de sortie comme, je pense, tous les jeunes de son âge. Il aime bien être seul. Dans la nature, quoi.
Mm-hmm. Je pense que ça, c'est très lié à sa vie. C'est un enfant unique. Donc, mm-hmm. Il a peut-être, voilà, comme il n'a pas grandi avec des frères et sœurs, peut-être il a appris aussi à aimer la solitude comme ça. Je ne sais pas, c'est des questions. Et puis, comme on le disait, il faisait des petits, beaucoup de trajets à pied, seul, parce que pour aller à l'école, ensuite pour aller à l'école d'instituteur.
Et ça, c'est le reflet aussi de la société de l'époque, où on marche beaucoup, oui. En fait.
On dit rien, on fait.
Oui, on fait, et on marche beaucoup, parce que ça fait état aussi des moyens de transport de l'époque. Hein. Mm. On marche, et puis on voit l'apparition aussi du vélo à travers ces récits. Je ne sais pas si vous en êtes là, au moment où... c'est un peu plus tard, mais lorsqu'il rencontre donc à l'hôtel sa future femme... Il raconte aussi que les gens viennent à vélo pour consommer, pour boire, et puis qu'ils repartent. Ils repartent et ils reviennent quand même le soir. Et le vélo, qui est un peu partout dans cette société de la belle époque, là, à la fin du 19e, permet plus d'aisance dans les déplacements, quoi. Mais la marche reste, les déplacements à pied restent ce qui est le plus courant à l'époque.
C'est des petits cahiers d'écoliers qui sont un demi à quatre, en gros, une demi-feuille aujourd'hui. Voilà.
Récupéré quand il enseignait, alors.
Ben, probablement.
Parce que là, il était à la retraite.
Donc avec, vous voyez, la marge, le trait rouge de la marge, les petites lignes bleues, voilà.
Et nos cahiers d'école.
Voilà. Et donc, comme vous disiez, donc écrit d'une écriture assez serrée, à la plume noire. Et à un moment, c'est donc dans le cahier 2.
Il passe au stylo plume, hein, je crois qu'il y a un coup d'effaceur même.
En fait, voilà, tout à coup, au milieu d'une page, on passe donc de cette écriture noire très régulière, très serrée, faite à la plume, à une écriture qui est un peu moins régulière. L'encre est bleue, elle est plus noire. Et là, c'est écrit mai 41. Et donc, en fait, il avait dû commencer à écrire. Il le dit à un moment, il est à la retraite, il est désœuvré, donc il a envie de revenir sur sa vie. Donc, il commence à raconter sa vie. Et on a l'impression que ce qui se passe, c'est qu'un jour, il est plus ou moins interrompu, en tout cas entre deux sessions de rédaction. Il est interrompu et il va reprendre le carnet plus tard. Et donc, il dit mai 41, Saint-Chamas. Ou Saint-Chamas, terre d'exil. Donc là, Saint-Chamas, c'est son fils.
Oui, c'est son fils, oui, terre d'exil.
C'est dans les Bouches-du-Rhône,
oui,
si
oui.
Je me trompe
il
pas.
Il était dans la pauvreté de Saint-Chamas et terre d'exil, il avait de très mauvaises relations avec sa belle-fille, qui était une fille, une dame d'une famille de sept fonds, une famille d'enseignants, la famille Cahors. Voilà, bon. Et donc, terre d'exil, oui, ça joue bien.
Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'il reprend les carnets et il dit « Ici, je retourne en arrière, les circonstances m'y obligeant ». Et à partir de là, il ne va plus raconter sa vie d'avant, il va raconter ce qui lui arrive maintenant. À partir de cette page, il va, c'est là où il va commencer à relater son arrestation, l'interrogatoire, le procès, son fils qui le sort donc de Beausoleil en attente du procès, puis le procès et l'acquittement. Voilà. Et en fait, on voit qu'il y a des inscriptions. Il y a la croix de Lorraine, à côté la croix gammée nazie. Ça, moi, je ne le connais pas, ce code, mais je pense qu'il a une signification. C'est 7-7, un 7 au milieu, H-H. Je pense qu'il y a une signification, il faudrait chercher. On n'a pas encore cherché.
C'est quoi ça, la croix de Lorraine ?
C'est la croix de Lorraine. La croix...
sur France libre.
Oui, voilà. Okay. Donc, qui a beaucoup été repris par les résistants aussi comme symbole. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une rupture dans la rédaction des cahiers où avant il raconte donc ce qui s'est passé dans sa vie avant, quand il était plus jeune. Et à partir de cet endroit-là, il va vraiment raconter ce qui lui arrive... ce qui lui est arrivé ces derniers mois. Et à partir de là, c'est presque la fin du carnet. Enfin, il reste un carnet entier, mais qui n'est pas autant rempli que les autres, puisque au bout d'un moment, il parle d'autres choses. Il fait des... Comme vous disiez, il note ses pensées. Voilà.
Alors, ça c'est de la plume. Ça, c'est écrit à la plume, là. Et ça, c'est du...
Porte-plume.
Ouais, porte-plume, pardon. Et ça, c'est du stylo plume, non?
Oui, c'est possible, ouais. Moi,
j'ai jamais vu de stylo plume chez lui.
Mais,
ah non. C'était la plume.
C'était du bic.
La plume.
Du bic aussi.
Il y a du bic, ça, je pense que c'est lui qui le fait dans les années 60.
Plus tard, donc.
Il semblerait qu'il y ait une troisième étape... dans laquelle il a apporté ensuite les notes marginales.
Exactement.
Au bic, donc.
À différents stylos, il doit y avoir plusieurs moments. Ça, c'est du stylo bic.
Oui, c'est bien.
En fait, bien après, probablement dans les années 60, à la fin, il vient rajouter des notes. Oui. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait des précisions. Il dit, alors c'est sur j'ai le souvenir, moi, du prix des œufs, où il dit, aujourd'hui, un œuf vaut tant de francs, enfin, ou tant de centimes, en l'occurrence, je crois.
C'était des francs.
Mais pour un œuf, je crois. Là, par exemple, et souvent, il corrige des dates aussi.
Oui, des apports.
Je pense qu'il a, en fait, dans les années 60, probablement, il a dû relire les carnets et faire quelques précisions.
Son épouse a un AVC, je crois, quand il était à cette fois, non ou...
Un peu avant.
Un peu avant,
il
c'est
dit
ça,
un tout petit peu avant.
Oui,
et
et la peine qu'il a de la laisser avec son AVC.
Il raconte aussi comment des gens du village se sont occupés d'elle.
Oui,
un petit peu.
Donc, avec la transcription, il faudra ajouter peut-être un apparat critique aussi.
Oui, hein. Voilà, exactement, pour expliquer tout ce travail, expliquer qui est M. Bourgeol et le contexte de tout ça. Après, on n'a pas dit, mais en fait, il y a plein de documents insérés dans les carnets qui sont... il y a des contrats de mariage. Il y a ceux de ses parents. Je crois qu'il y a... Je me demande même s'il n'y avait pas ses grands-parents... Mais ça, c'est le sien.
Oui.
15 août 1898, mariage de Jean-Sébastien Bourgeol et Eugénie Besombe. Notaire Goulard à Puylaroc. Voilà. Bon, après, c'est un contrat de mariage assez classique. Hein. Il n'y a rien de... Il y a des choses un peu plus touchantes. Là, oui, il y a ce petit dessin que lui aurait fait un de ses élèves en Espagne. Je ne parle pas espagnol, mais c'est écrit « Muy respetable maestro, con gran cariño ». Après, je n'y arriverai pas. Il le dit quelque part que c'est un des élèves qui lui a fait ce dessin et qu'il a gardé.
Après, dessiner des cartes, ouais, faire des plans.
Après, il dessinait très bien.
Son quartier, quand il est né. Oui.
À l'entrée des ponts de Valence se trouvaient des coiffeurs de plein air. Une cruche d'eau, un rasoir, un blaireau, parfois une chaise, un bout de glace. Voilà tout le matériel. Les paysans arrivant à la ville se faisaient raser avant d'entrer. Cela coûtait 5 ou 10 centimes. Le salon ne désemplissait pas et les coiffeurs étaient d'excellents ouvriers. Je passais ensuite sur l'Alméda, promenade de peupliers où se rendaient les riches de la ville avec leurs voitures attelées de chevaux ou de mules de toute beauté. Voitures découvertes presque toujours, où s'éventaient des femmes en grande toilette et souvent sans chapeau, mais les cheveux ornés de fleurs et sur la tête, la mantille espagnole. Mais j'aimais surtout m'en aller dans la campagne, imprégnée de l'odeur des lauriers roses, des orangers en fleurs, des oranges et des mandarines mûres. Là, j'étais tranquille. Je m'intéressais au travail des ouvriers, à la cueillette des oranges par des femmes, montées sur de petites échelles doubles, car les orangers n'avaient pas de tronc, mais formaient un bouquet à 2 mètres de hauteur. Naturellement, je mangeais les oranges que je voulais. C'était une chose permise pour tous les fruits, pourvu qu'on n'en emporte d'aucune façon.
Voilà, ces cahiers sont des mines d'or historiques, hein, qui sont vraiment complets d'un point de vue sociétal, architectural. Et voilà, ça nous dépeint vraiment une société, la société de cette première partie du XXe siècle. Oui.
C'était les Capsules du patrimoine, une émission aujourd'hui consacrée au cahier de Jean-Sébastien Bourgeol. Merci à Monsieur Ibarz et aux amis des archives pour leur aide précieuse et leur accueil convivial. Et merci à Victor d'avoir prêté sa voix aux écrits de Monsieur Bourgeol. Si vous êtes intéressé par les activités de l'Association des Amis des Archives Départementales de Tarn-et-Garonne, n'hésitez pas à les contacter. L'émission mensuelle Les Capsules du patrimoine, l'émission du service inventaire du patrimoine du pays Mythique-Hercy, est réalisée par CFM Quélus grâce à un soutien du Fonds européen Leader, de la région Occitanie, du département de Tarn-et-Garonne et du pays d'art et d'histoire du pays Mythique-Hercy. Retrouvez-la et toutes les autres en podcast sur le site cfmradio.fr.